Salut tout le monde! Pour ceux qui suivent la version podcast, excusez du retard, c'est une journée comme ça, mais je suis là, en forme, tout va bien. Écoutez, dans le journal Le Monde, non, c'est pas dans le journal Le Monde, c'est dans un autre média français, je pense que c'est sur le site internet d'une radio. Ils disent qu'ils sont en train de préparer, c'est vrai que personne n'avait pensé à ça, le remake français de Jaws, Les Dents de la Mer. Dou, 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 dou. Alors moi, j'ai des choses à dire sur ce film-là, qui sont de l'ordre du très personnel, mais pourquoi pas. Jaws est sorti en 1975, donc j'avais 11 ans. Et c'est le seul souvenir que j'ai d'être allé au cinéparc avec mes parents. On est 4 enfants, puis je sais pas ce que les 3 autres faisaient à ce moment-là, mais ils étaient des adultes. T'sais, si moi j'avais 11, ma grande sœur avait 21, 20, puis mon frère avait 17. Ça fait que c'est sûr qu'un week-end ou sur semaine ou peu importe, les chances étaient qu'ils n'étaient pas chez nous, t'sais, ou qu'ils n'ont pas voulu aller là ou peu importe. Ça fait que là, on part en auto, je me souviens, j'étais en arrière, mes parents en avant, puis on s'en va voir Jaws, qui était 13 ans et plus. Ça fait que là, je suppose que mes parents ont dû dire on va tourner coin rond ou autre, mais moi je peux vous le dire, là, quand c'est marqué 13 ans et plus, amenez pas un kit de 9 ou 10 ou de. Parce que j'ai été traumatisé sévèrement pendant tout l'été. Et quand je m'en allais au lac aux Sables, qui est le chalet de la famille, puis qu'on allait quand même plusieurs fois, là, à ce moment-là, à 11 ans, bien entendu, je ne pouvais pas partir avec l'auto puis y aller tout seul, mais j'ai quand même des souvenirs chaque année. Cette année-là, là, tout le monde. C'est peut-être ça que ceux qui sont plus jeunes oublient, là, mais tout le monde avait peur de se baigner. Ce film-là a eu un succès retentissant à travers le monde. Un succès de box-office, mais en même temps, ça a été avec Exorcist, je vous le dis. C'est les deux films qui ont eu le plus de répercussions sur le quotidien des gens qui l'ont vu. Partout dans le monde, les gens ont eu peur de se baigner. Si on était capable de mesurer le nombre de personnes qui se sont mis le pied dans l'eau sur des rives, puis là, moi, je vous parle d'un lac. Comprends-tu qu'il n'y a pas de requin dans un lac, là? Tu sais, c'est des gens, ça se peut juste même pas. Mettons 11 ans, tu sais. Mais si je pouvais savoir quel était l'état de la baignade en Floride en 1975. J'ai pas fait de recherche, là, mais je vous le dis, je suis certain qu'il y a des articles puis qu'on est capable de monitorer un lien direct entre ce film-là puis le nombre de monde qui se sont baignés. Moi, tout l'été, j'ai eu peur de me mettre les pieds dans l'eau. Tout l'été. Puis je vous le dis, c'est pas nécessairement... Quand je vous parle d'Exorciste, par exemple, vous savez que moi, sur IMDb, que vous avez accès sur en bas de marcboiler.com, les liens pour aller sur les médias sociaux. Moi, chaque film, encore en fin de semaine, j'en ai vu un très, très, très bon. Je vous le souligne comme ça en passant, ça s'appelle... j'ai toujours de la misère avec le nom. Of Justice. En tout cas, bref, c'est avec Mads Mikkelsen, là, le Danois, qui joue dans plein de films, entre autres américains, qui a fait un méchant dans James Bond. Puis c'est parce que je pense toujours au mot justice, puis c'est comme pas ça, mais en tout cas, bref. Puis j'ai vu ça samedi ou dimanche, c'est bon, à tabarouette. Ça fait que, bref, courte parenthèse, je cote tout le temps ces films-là. Lui, j'ai passé proche de mettre presque un 9 pour un trailer, mais j'ai de la misère à mettre 9 pour des films, puis 10, j'en ai jamais mis. À part, je pense, Cinéma Paradiso, mais en tout cas, c'est pas ça le sujet. Mais Exorcist reste encore le film d'horreur le plus réaliste, le plus terrifiant, celui qui fait que quand tu le vois, tu dors pas pendant la nuit, etc., surtout si t'es jeune. Mais dans le cas de Jaws, c'était comme débile, tu sais, c'était vraiment... Puis le cinéma, cet impact-là, c'est fait pour ça, tu sais. Quand tu y penses, là, c'était dans un livre qui s'appelait The Attention Economy. Ça date de 2002. C'est deux profs de Harvard qui ont écrit ça, qui racontent ni plus ni moins que depuis déjà quelques dizaines d'années, on est entré dans l'économie de l'attention, c'est-à-dire que Quand vous êtes sur Internet, règle générale, les affaires sont gratuites. Cette gratuité-là fait en sorte que plus de monde y vont que si on faisait juste payer une pièce. Et à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est vos yeux. On veut vos yeux, on veut votre attention. Pourquoi? Pour vendre de la pub. Le système est assez simple. Puis dans le livre, je me souviens qu'il disait, remarquez qu'il y a des gens qui sont prêts à consacrer 2 heures de leur temps dans la vie pour aller dans une salle noire où ce que tout est coupé, puis vous avez quelque chose à l'écran qui passe avec du son, etc., Vous portez votre attention sur un truc totalement fictif. C'est pas une scène de la vie courante ni rien. Vous savez que c'est pas vrai. Vous savez que même si c'est un documentaire puis qu'il y a des images d'archives, ce qui se passe en temps réel, ça reste que des images. Puis on choisit délibérément d'aller se mettre là. Ça a ce pouvoir-là quand même. Quand on y pense, tu sais, le cinéma, c'est fort. C'est vraiment fort. Ça fait que j'ai vraiment ce souvenir-là de jazz, qui n'est pas mon sujet principal. Là. Je voulais juste commencer par ça parce que, quand même, ça m'a interpellé. Puis là, ben, ça va être avec, entre autres, Kad Merad, deux filles, puis un dude qui est un réalisateur aussi, des fois, dont j'oublie le nom. Là, je pense que je ne sais pas son nom. Puis deux filles que j'ai pas reconnues sa photo, mais Kad Merad, c'est lui qui fait le gars qui dans Bienvenue chez les Ch'tis. Là. Si vous avez pas vu ce film-là, c'est une comédie française qui est encore à ce jour le film qui a vendu le plus de billets. Qui calcule le plus d'entrées, comme on dit en France, de l'histoire. C'est très, très, très bon. C'est vraiment bon. C'est solide. C'est Danny Boone qui joue le film, qui l'a écrit puis qui l'a réalisé. C'est tout un exploit. Mais tu sais, c'est vraiment fait avec des moyens puis tout ça. C'est très, très bon. Mon sujet aujourd'hui, bon, ça aurait pu être ça, mais je veux dire, j'en ai deux dans le fond. C'est un article dans la presse qui dit que les gens qui sont, entre guillemets, plus spirituels, ont été plus portés vers... sont plus portés à pas vouloir se faire vacciner, tu sais, ce qui est une surprise pour personne. C'est-à-dire que là, ils viennent de l'étudier dans plusieurs pays, auprès de milliers de personnes, etc. Mais dans la vraie vie, tu sais, on voit très bien c'est quoi la mouvance anti-vaccin. C'est souvent des filles qui déjà étaient dans des trucs de médecine alternative, puis qui ont toujours eu une méfiance envers la médecine, la pharmacologie, tout ça est un complot, etc. Puis là, tout à coup, ben écoute, c'est comme si on a donné du sucre à un enfant de 10 ans, là, ils sont tombés là. Puis je dis des filles parce que il y a beaucoup de gars aussi, là, tu sais, je suis pas certain qu'il y ait des études qui démontrent s'il y a plus de filles que de gars qui sont anti-vaccins, mais qui proviennent de cette mouvance-là, un peu spirituelle, là. Un peu New Age, ça c'est très très féminin. Le New Age en général, c'est très très féminin, ça c'est pas compliqué. Puis ça, ils en parlent pas dans l'étude, mais moi, on le voit, là, tu sais, que c'est comme... Il y a certaines figures complotistes, là, assez populaires. Puis quand c'est des gars, c'est plus des gens qui sont rebelles contre l'autorité, rebelles contre... rebelles point, un peu motards, si tu veux. Puis de l'autre côté, mais tu vois souvent que c'est des filles qui arrivent de la soft santé, du New Age, les jus verts, etc. On lutte le cancer avec la vitamine C, toute cette affaire-là. Puis pour moi, ben, ça représente pas une surprise. C'est pour ça que je vous dis que c'est un parfait exemple quand je vous dis que le monde se divise déjà et va se diviser de plus en plus vers les gens qui sont allés à l'école puis ceux qui sont pas allés à l'école. Ça va être ça. Ceux qui sont allés à l'école sont capables, puis tu peux aller à l'école sans aller à l'école, vous voyez ce que je veux dire, là? Règle générale, pour avoir une mentalité qui fait la différence entre le vrai et le farfelu, ben il faut que tu aies eu au moins minimalement une curiosité, puis règle générale, ça, ce job-là est fait en allant à l'école. Plus longtemps que moins longtemps, c'est ça que je veux dire. Puis voilà, c'est comme maintenant, il y a des études qui le démontrent, mais il n'y a aucune surprise à part le fait que là, ben c'est appuyé sur vraiment des gens qui ont dit, on a fait... Puis c'est intéressant ce qu'ils faisaient, tu sais, par exemple, ils ont démontré que des gens qui n'avaient pas un minimum de savoir et de culture scientifique, genre, est-ce qu'un neutron, un proton, c'est plus petit qu'un atome? Ou est-ce qu'un... C'était des questions comme ça, là, tu sais, qui... Ça fait que c'est des affaires, tu sais, qui font partie de ce qu'on apprenait en chimie secondaire 3, là. Ça fait que quand ils voyaient que les gens échouaient des questions de base, ben à ce moment-là, oups, tu vois, ils étaient plus portés à être suspicieux par rapport au vaccin. Puis c'est intéressant aussi parce que ça répond à la question qu'on a toutes quand on est au secondaire. À quoi ça sert de faire de la géométrie? À quoi ça sert? Puis c'est normal. On est jeune, on a 15 ans, puis on se dit, on fait un cours de philo. On fait un cours, justement, de chimie. Quand est-ce que ça va me servir, la chimie? Moi, je veux être avocat. Puis on peut... Puis c'est ça. Puis la réponse, ça s'appelle mettre du plomb dans la tête. C'est juste ça. Ça s'appelle mettre du plomb dans la tête. C'est pas... La vie n'est pas qu'une école professionnelle. C'est facile de dire, moi, je veux être assistant cuisinier. Ça fait qu'en secondaire 3, je fais un professionnel cours, je m'en vais à Polyvalent de Charlebourg, j'étudie un an, puis quand je sors, je peux m'acheter tout de suite ma Mustang, puis je trippe. Puis à 25 ans, je vais commencer à être plafonné, puis à 30, ben je vais être comme quand j'avais 17. C'est ça, la réalité, qu'est-ce que je fasse? C'est pas moi qui décide comment ça marche, je dis tout le temps ça, mais c'est vrai. Ça fait que quand t'étudies des trucs très variés, qui un dans lequel t'excelles, l'autre qui te gaze, etc., moi, c'était les maths. Moi, c'est très bizarre comment j'ai évolué parce que je suis devenu très, très, très structuré intellectuellement, très rigoureux, très chaque mot est important, etc. Or, je n'ai pas une pensée de même de facto, dans le sens que je ne suis pas un esprit mathématique du tout. Puis probablement parce qu'on confond un esprit scientifique et mathématique. Moi, je trouve que j'ai une tête d'ingénieur. J'ai une argumentation d'avocat, c'est ça ma vraie formation, mais ma vraie tête, c'est plus une tête d'ingénieur. De regarder là tout ce qui est autour, puis de dire, c'est par ce bout-là qu'il faut prendre ça si on veut que finalement ça donne des résultats. Mais comme tel, c'est des études dans lesquelles j'aurais lamentablement échoué, parce que je suis zéro en maths. La physique, tu vois, il y avait plus de logique. La physique m'intéressait plus. Puis à la rigueur, c'est plus concret. La chimie, je trouvais le temps long. Caroline. C'était à vrai dire, si mes collègues de classe m'aidaient pas, j'échouais. J'ai passé chimie, moi, genre à 64 au lieu de 59 parce que je devais avoir deux amis qui m'ont donné des trucs. Tu sais, vraiment. Puis mathématiques, quand je suis rentré, ils dispersent un peu au hasard, là, en secondaire 1. Fait que j'étais dans une classe poche dans laquelle j'étais bon. C'est-à-dire qu'en secondaire 2, j'étais dans une classe forte dans laquelle j'étais poche. Puis en secondaire 3, je suis retourné dans une classe ordinaire dans laquelle j'étais ordinaire. Parce que là, c'était comme les efforts étaient finis. Puis bref, tout ça pour dire que c'est ça. C'est très drôle de voir que quelque chose qu'on a au feeling, c'est-à-dire qu'on voyait bien c'était qui, là. On voit un peu leur profil, c'est qui les complotistes. Le seul profil complotiste, je vais vous dire, ou anti-masque, ou anti-gouvernement, etc., qui a émergé, mais c'est pas du tout une surprise non plus pour moi, mais qui était pas nécessairement, bon, dans une espèce de sens d'une mouvance New Age spirituelle ou autre, mais que j'ai décelé dès le départ parmi les gens qui étaient très, très fâchés de devoir mettre un masque. Et puis ça, une étude le démontrera éventuellement. Vous pourrez dire que je vous l'ai dit en premier. C'est les gens qui sont très, très... qui ont un gros problème avec l'autorité. Moi, j'ai un de mes amis, à un moment donné, il m'appelle, puis il commence à m'argumenter. Lui, il masque, puis ça a de l'air que t'as à la fin. J'ai fait de quoi? Tu sors de... C'est que ces gens-là prennent l'information qui fait leur affaire. Là, ils sortent une affaire, ça fait leur affaire. C'est démenti trois jours après, on n'en parle plus, on passe à une autre affaire, et ainsi de suite. Puis, la gang autour qui s'abreuve de tout ça parce qu'eux autres, ça vient déclencher quelque chose qui les énerve, bien, eux autres, à chaque fois qu'on leur donne à manger sur ça, bien, ils en mangent. Puis je me souviens, j'avais dit ça à mon chum, j'avais dit, man, la seule affaire, là, c'est que je te connais. T'as toujours eu un problème avec l'autorité, puis là, tout à coup, on te dit de mettre un masque, puis là, t'as vu une nouvelle qui dit que ça sert à rien, puis là, ça y est, nous brimons. Puis oublie jamais une affaire, hein, la ritournelle de la liberté individuelle, là, pour laquelle je suis pas contre. C'est un vrai combat, puis tant mieux qu'il y ait du monde qui défende ça, parce que moi, je suis pas du genre à défendre. Moi, je pense beaucoup plus que la vraie liberté, c'est des limites, puis des limites, s'il y en a pas, c'est le bordel. Ça fait que je suis beaucoup plus intéressé à parler des limites que de la liberté. Parce que si tout le monde est libre, ça existe d'ailleurs. Ceux qui trippent liberté individuelle comme étant un mantra, là, ça existe, ça s'appelle la loi de la jungle. Dans la jungle, là, je veux te dire, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est que ça donne que c'est la loi du plus fort. Donc la gazelle, elle m'a dit de quoi? Elle peut pas appeler la police. Elle peut pas dire « Non, t'as pas le droit de dépasser telle ligne, il faut que tu rentres chez vous après 9h. » La gazelle, s'il y a un lion caché qui saute dessus, c'est terminé. Le lion se demande zéro si c'était gentil d'avoir mordu la cuisse, puis après ça, de l'avoir digéré le plus rapide possible. Ça passe pas par sa tête. Bienvenue dans le royaume de la liberté individuelle. Pousser à son excès, c'est exactement ça. Fait que c'est pas une surprise, ça existe. Donc nous autres, les êtres humains, on a choisi de vivre dans ce qu'on appelle une civilisation, un monde civilisé, avec des villes, des cités, là, dans le temps que ça a commencé avec la plus... Savez-vous que j'ai visité la plus vieille ville au monde? C'est Baalbek, avec deux A. Baalbek, au Liban. Je suis allé une fois au Liban, moi, en 2000, je pense. En 2000, ouais. Puis, ou en 99, ou en 2000. Je vous l'ai déjà compté. Puis, on est allé visiter ça, Baalbek. C'est un village, évidemment, mais c'est les premières ruines, si on veut, qui tiennent encore, où est-ce que des gens s'étaient rassemblés, et pas de façon tribale ou nomade. 6000 ans, hein, c'est comme, waouh! C'est fait que, tu sais, on a choisi ça, les humains ont choisi ça, avec l'intelligence, de dire que ce sera pas la loi du plus fort, ce sera pas la loi de la jungle. Mais quand tu regardes la logique poussée à l'extrême de la liberté individuelle, c'est la loi de la jungle. Bon, Fait que, je veux dire, tant mieux si ça amuse les tenants de ça, mais ça fait pas de sens, t'sais. Alors voilà, mes amis, sur ce, bonne journée.